franceinter.fr.
Dans cette crise dont nous ne voyons pas l'issue, voici un livre qui mérite qu'on s'y arrête. Il est signé de Steve Keen, un économiste australien qui enseigne à l'université Kingston de Londres, et il démonte un par un les postulats de la théorie économique dominante, celle qui montre la voie à la plupart des gouvernements et qui conduit notamment aux politiques d'austérité menées en Europe, celle qui n'avait pas prévu ni même imaginé la crise. Ce qui est Steve Keen, lui, est l'un des très rares économistes à l'avoir prévu. Il l'avait même modélisé, ce qui donne quelques crédits à sa démonstration. Ce livre, L'imposture économique, vient de paraître en français aux éditions de l'Atelier. Bonjour Gaël Giraud.
Bonjour.
Économiste, vous-même, directeur de recherche au CNRS, vous avez supervisé la traduction de ce livre et vous en signez la préface. Je vais tenter, si cela est possible, et vous me corrigerez si besoin, de résumer l'approche de Steve Keen en deux phrases. Petit 1. Selon lui, la principale erreur conceptuelle de la théorie dominante, ce qu'on appelle l'école néoclassique, c'est d'éliminer de sa réflexion la dette, la monnaie et le rôle des banques. Non, la monnaie n'est pas neutre, il n'y a pas de croissance sans augmentation de la masse monétaire. Et puis petit 2, deuxième erreur fondamentale liée selon lui à la première, considérer que l'État se gère de la même façon qu'un ménage. C'est cela ?
Oui, tout à fait. Vous avez bien résumé. C'est les deux principaux postulats que Steve Keen démonte complètement, qui s'effondrent à l'issue de son bouquin. J'en rajouterai un troisième qui est l'économie dominante postule que nous sommes toujours à l'équilibre, donc dans un état finalement d'équilibre des forces économiques, sociales.
Entre l'offre et la demande.
Entre l'offre et la demande, pas seulement. Et la question que pose Steve Keen, c'est en 2007-2008, est-ce que vous croyez vraiment qu'on était à l'équilibre ?
Oui.
Voilà.
Alors, je reviens sur le deuxième point parce qu'il est le plus concret. C'est un livre, je rappelle que vous parlez là ce matin à des profanes, à commencer par votre serviteur. Donc on va pas trop faire de théorie économique, mais on va revenir sur quelques principes qui ont des applications concrètes dans notre vie, dans les politiques publiques qui sont menées aujourd'hui. Quand une famille réduit ses dépenses, ça ne change rien à ses revenus. Pour l'État, c'est le contraire.
C'est pas vrai. Ce que montre Steve, c'est que, si vous voulez, ce qu'on enseigne dans toutes les universités, au lycée, ce que répètent jour et nuit les fonctionnaires de la BCE, du FMI, la Banque mondiale, c'est juste faux. C'est pas vrai que lorsque l'État, par exemple, augmente ses dépenses publiques, les ménages en face vont systématiquement réduire leurs dépenses parce qu'ils pensent que dans le futur, il y en a une augmentation de taxes pour compenser la dépense publique. C'est pas du tout ce qu'on observe empiriquement et ça tient pas la route du point de vue analytique. Et donc Steve pose la question, est-ce que vous croyez vraiment que la dépense publique, c'est le péché originel? On n'a aucune démonstration de ça. Et si une fois qu'on a compris ça, on voit bien que toutes les politiques d'austérité qu'on mène en Europe aujourd'hui n'ont aucun fondement théorique. C'est des postulats politiques qui n'ont pas de fondement dans l'économie contemporaine, aujourd'hui.
Ça veut dire qu'à vos yeux, et à ceux de Steve Keen, l'endettement des États n'est pas un problème ?
C'est pas du tout ça. Ça veut dire que l'endettement des États n'est pas neutre au sens où le dit la théorie économique dominante. Et donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des situations comme celle que nous vivons aujourd'hui. Par exemple, une situation de déflation, celle que nous avons en Europe aujourd'hui, où tout le monde est criblé de dettes. Je vous rappelle que ceux qui ont le plus de dettes en Europe, ce n'est pas du tout les États, ce sont les banques. Ce sont les banques.
Ce sont les banques.
Qui, évidemment, se gardent bien de nous le dire. Ensuite, les banques, le secteur des industries privées, les ménages et puis les États. Et donc, la question, c'est quand on est dans une situation de déflation, comme l'est le Japon depuis 20 ans, qu'est-ce qui est le plus urgent? Est-ce que le plus urgent, c'est que l'État se désendette comme tout le monde et donc approfondisse la spirale déflationniste, ou bien qu'au contraire, il soit le seul acteur économique qui peut se permettre de continuer à avoir de la dette quelques années de plus pour permettre à la machine économique de repartir? C'est ça, là, le grand enjeu.
Pourquoi, aux yeux de Steve Keen, le volume de la dette privée est préoccupant, notamment en Grande-Bretagne ? Et pour quelle raison, si j'ai bien lu, notamment dans ses interviews, c'est là le principal risque d'une crise financière dans les années à venir ?
Oui, tout à fait. Parce qu'en fait, ce qu'on observe historiquement, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu une grande crise économique, ça a toujours été précédé par une explosion de la dette privée. Et en fait, pour être plus précis, du rapport dette privée sur PIB, sur PIB. Et aujourd'hui, en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en grande partie en Europe aussi, ce ratio-là, le rapport dette privée sur PIB, est de nouveau en train d'augmenter très rapidement. Et ça, c'est le signe avant-coureur de la prochaine crise.
Quand on parle de dette privée, qui pratiquement est endetté ?
Comme je le disais tout à l'heure, d'abord et en
les
premier
banques,
chef, les banques.
Les établissements financiers.
Voilà, les banques, qui ont des dettes absolument colossales. Et ensuite, le secteur privé industriel et les ménages.
Donc c'est quoi ? C'est une bulle ?
Alors, il y a une bulle financière actuellement, ça c'est très évident. Vous voyez le cours des marchés financiers qui n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui, comme si la crise financière était très loin, alors qu'en réalité, du côté de l'économie réelle, on n'a absolument pas tourné la page de la crise économique. Et donc il y a un découplage complet entre la sphère financière d'un côté, la sphère réelle de l'autre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'acteurs financiers qui s'endettent pour pouvoir profiter de la hausse des cours financiers, mais qui, tôt ou tard, seront incapables de rembourser leurs dettes. C'est là que le problème de la dette privée apparaît et provoque inévitablement la crevaison de la bulle et donc le krach financier.
Je reviens sur le terrain de la dette publique, puisque c'est au nom de la réduction de cette dette, c'est la finalité des politiques qui sont suivies aujourd'hui en Europe. On a une particularité aujourd'hui, c'est la faiblesse des taux d'intérêt. Il y a même, on en a parlé ici, des taux négatifs qui s'appliquent aujourd'hui pour les emprunts à court terme sur la France. On n'est pas à l'abri d'une remontée de ces taux d'intérêt.
Ah, tout à fait, absolument. Mais ça, c'est une bêtise que nous avons faite de nous rendre complètement dépendants, disons, du caractère absolument volage des marchés financiers, qui aujourd'hui nous prêtent à des taux négatifs, mais qui demain matin peuvent nous assassiner du jour au lendemain avec des taux d'intérêt qui peuvent exploser sur la dette française. Le point qu'essaie de faire Steve Kinn et beaucoup d'autres économistes, il n'est pas tout seul, hein, moi-même et d'autres, c'est de dire, aujourd'hui, le plus urgent, c'est que l'État relance la machine à travers un certain nombre d'investissements ciblés, de mon point de vue essentiellement des investissements autour de la transition énergétique, et qu'au fond, le fait que nous ayons la dette publique ne devrait pas être un obstacle comme tel. Ce n'est pas un obstacle de principe, si vous voulez. L'État se désendettera plus tard lorsque l'économie privée ira mieux. Il se trouve qu'aujourd'hui, l'économie privée est ultra endettée et que l'urgence des urgences, ce n'est pas que l'État se désendette avec les autres.
Donc, pour être très concret, l'État français va emprunter l'an prochain sur les marchés environ 200 milliards d'euros.
Oui, comme chaque année.
Ça devrait être plus ? Ça devrait être davantage ?
Ça devrait être davantage si on a des vrais projets, des vrais investissements liés, par exemple, à la transition énergétique. Oui, tout à fait.
Quitte à faire monter, évidemment, remonter le niveau de la dette.
Quitte à ce que le taux d'intérêt augmente, on ne va pas en mourir demain matin.
Et accroître aussi le déficit du budget de l'État.
Oui, absolument. C'est un accroissement temporaire. C'est un mal nécessaire, si vous voulez, pour nous sortir de la trappe déflationniste. L'alternative, c'est le sentier japonais. Hein, le Japon est dans la déflation depuis 20 ans, s'y débat comme un beau diable et n'arrive absolument pas à en sortir. Hein, si vous regardez un peu la politique de Shinzo Abe, bon, il tente tout et n'importe quoi pour essayer de sortir du marécage et il n'y parvient pas. Donc il n'a plus de croissance depuis 20 ans, il y a juste le chômage qui augmente et les dettes de tout le monde qui augmentent. C'est ça qu'il faut absolument éviter en Europe, puisque la dernière fois que ça nous est arrivé, c'était les années 30. Et nous n'en sommes sortis que par des sorties de route absolument antidémocratiques, vous voyez très bien le schéma pour nous aujourd'hui, et par la guerre.
Ce livre, L'imposture économique, est paru dans une première version il y a plus d'une dizaine d'années déjà, hein, je crois,
oui, en 2000,
en Australie. Il a été réédité plusieurs fois. Aujourd'hui, je le disais, Steve Kinn enseigne à Londres. Quel est le débat provoqué par ce livre que vous qualifiez de fondateur dans les milieux économiques anglo-saxons et au sein de la communauté des économistes?
Donc il y a un débat considérable aujourd'hui. Hein. Vous avez par exemple l'INET, l'Institute for New Economic Thinking, qui est un institut pour la nouvelle pensée économique, qui s'est emparé du travail de Steve Kinn et d'autres économistes, hein, ils sont très nombreux, pour dire il y a plein de choses qui ne vont pas du tout dans l'économie dominante, il faut repenser de fond en comble l'économie aujourd'hui. Donc voilà, le débat est complètement ouvert. Évidemment, en face, les économistes orthodoxes n'ont pas du tout intérêt à ce que le débat ait lieu. Donc ils vont passer leur temps à dire mais non, tout ça, ça vaut rien, sans accepter d'entrer dans le débat. Mais il faut qu'ils se coltinent les arguments de Kinn et qu'ils y répondent, point par point.
Pourtant, Steve Kinn montre les doutes de ce que vous appelez les économistes orthodoxes, c'est-à-dire qu'ils ont eux-mêmes détecté un certain nombre de failles du système et des modèles qui sont enseignés partout.
C'est ça qui est le plus extraordinaire, c'est que les meilleurs d'entre eux ont très bien compris que leur théorie ne tient pas la route. Et ils l'ont dit en plus.
Oui.
Mais les moins bons d'entre eux n'ont pas entendu, n'ont pas compris et continuent de répéter le catéchisme comme s'ils ne savaient pas qu'au fond, le catéchisme qu'ils enseignent ne tient pas la route.
Ouais.
C'est très impressionnant.
Steve Kinn se qualifie lui-même de post-keynésien. Qu'est-ce que ça veut
dire ?
Oui,
donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui prend très très au sérieux le travail de Keynes, beaucoup plus que nous l'avons fait après la Seconde Guerre mondiale, et qui dit notamment la monnaie, c'est un enjeu central dans l'économie. Mais je ne pense pas qu'il y ait besoin d'avoir un doctorat en économie pour comprendre que la monnaie, c'est central dans nos économies. Eh bien, figurez-vous que la plupart des modèles utilisés par les économistes qui travaillent, qui à la BCE, qui au FMI, etc., sont des modèles sans monnaie. C'est extraordinaire. Oui.
Parmi les économistes français que vous citez, il y a Thomas Piketty, qui a obtenu un succès considérable en France, mais aussi aux États-Unis, où son livre « Le Capital au XXIe siècle » s'est arraché. Et vous expliquez que Thomas Piketty, lui, a fait du chemin, mais qu'il est au milieu du guet quand Steve Kinn est déjà passé sur l'autre rive.
Au sens où ce que montre Thomas, c'est absolument fondamental, hein, c'est une explosion des inégalités de capital. Et donc c'est un fait, si vous voulez, empirique, historique, mais Thomas n'essaye pas de révolutionner la théorie économique comme telle. Bon, ce que fait Steve Kinn, c'est de dire, non seulement il y a des faits majeurs que la théorie dominante ne voit pas, par rapport auxquels elle est aveugle, mais en plus la théorie elle-même doit être refondée. Et ça, c'est ce que fait Steve Kinn.
Gaël Giraud, qui a supervisé la traduction et qui a signé la préface de L'imposture économique de Steve King. On continue d'en parler avec les réflexions, les appels ou les questions des auditeurs de France Inter 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, le hashtag interactif. Ce sera après la revue de presse dans un instant.